Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'Opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
La scène se passe dans un hôpital aux USA. Il y a un patient qui vient de se faire soigner, donc il y a la sœur qui s'occupe de lui, lui dit bah, maintenant c'est bien, mais maintenant il faut régler l'addition. Alors comme vous n'avez pas de sécu et de mutuelle, comment on va faire? Vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous prêter l'argent? Elle dit non, vous n'avez pas de la famille? Non, si, j'ai une sœur, mais que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Vous savez, elle est comme vous, elle est bonne sœur, quoi. Donc elle est vieille fille, quoi. Ah, il dit, attendez, mon frère, donc je ne suis pas vieille fille, je suis mariée avec Dieu. Et pour la vie. Ah bon, écoutez, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à envoyer l'addition donc à mon beau-frère.
Ennui, joie, marché, distraction, détente, oxygénation, partage, enrichissement, pétanque, temps libre, ou pas le temps, ou tant pis. Sport, culture, épanouissement, potager, lâcher prise, nager, liberté, convivialité, métro, boulot, dodo, danser, lecture, passe-temps, passion, jeu, rencontre, enfance, troisième âge, oisiveté, hyperactivité, stimulation, apprentissage, dépendance, adrénaline, mer, montagne, forêt, campagne, Rambo, cinéma, pêche, voyage, promenade, bricolage, cuisine. Vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui nous allons vous parler des loisirs. Mais qu'est-ce que sont les loisirs ? Le loisir est l'activité que l'on effectue durant le temps libre dont on peut disposer. Ce temps libre s'oppose au temps prescrit, c'est-à-dire contraint par les occupations habituelles, emploi, activités domestiques, éducation des enfants, ou les servitudes qu'elle impose. Transport, par exemple. Le mot, dérivé du verbe latin licere, être permis, renvoie au début du XIIe siècle aux notions positives de liberté et d'oisiveté, puis, à partir du XVIIIe siècle, il évolue vers le sens de divertissement. Pour répondre à nos questions sur la place des loisirs dans la vie actuelle, nous avons choisi d'inviter Barbara Evrard, sociologue, maître de conférences à l'Université de Rouen.
Au sommaire aujourd'hui, de distrayantes lectures de textes de l'atelier du Point des mots, une licite recette de la petite cuisine d'Ozone, une minute du pôle récréative, un micro-trottoir réjouissant, une interview réjouissante également, des musiques épatantes et un épisode du Narvalo, le king du divertissement. Pour vous servir aujourd'hui,
Isabel,
Joël,
Jean,
Jean-Roger,
Didier,
Rémi,
Jean de la Lune,
Stéphane,
Saint-Marin,
François,
Béatrice,
Sandrine,
Julien
et le méditatif Timothée qui ne craint personne.
Il était une fois l'histoire d'une sauterelle pas vraiment comme les autres. Alors que ses congénères prenaient plaisir à détruire tout ce qui se trouvait sur leur chemin, envahissant les airs par nuées de millions d'individus, Amanda était une sauterelle solitaire. Les autres sauterelles ne lui adressaient pas la parole, non pas parce qu'elle était différente, comme il est d'usage chez les humains, mais simplement parce que les sauterelles ne parlent pas. Elles n'ont pas de prénom non plus, sauf Amanda. Et ce n'est pas là la seule originalité d'Amanda. Elle ne vole pas non plus, elle le pourrait. Mais elle ne le fait pas, car elle ne sait pas qu'elle est une sauterelle. Et c'est là sa plus grande originalité. Amanda se prend pour un renard solitaire bien sûr. Une situation bien étrange, mais jusqu'ici personne n'avait contredit Amanda lorsqu'elle prétendait être un renard, et ceci pour une raison toute simple, c'est une sauterelle et tout le monde se fout des sauterelles. Mais un jour, affamée, Amanda, en bon renard, décida de s'introduire dans une basse-cour pour y manger une poule. Après une longue approche furtive, Amanda sauta sur la poule et la poule se régala.
kabari ay godelen ay godelen zikraki shizintene wahe kabz billay kabari ay yarafkun ay yarafkun kaharfiki fqrqi amina ባንቆታን እንዳ ተጠብቆ እስፋስን ከይወዓዛልቆ ገና ድማ አድን ተራሐበ ተተፋላለና አማ መቅስመቲ ባንሳባለና ሕዝና ሓደ ሓሳብ ሓደ ትድልየትና ሓደ ሓሳብ ሓደ ዕላማና ፍቕርን ከሎ
La chanson, c'était Abraham Aforke.
Maintenant, nous allons aborder l'interview et parler loisirs avec Madame la sociologue, Madame Barbara Evrard, sociologue, maître de conférence à l'Université de Rouen.
Bonjour Madame.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut entendre par une sociologue ? pourquoi exercer ce métier. Est-ce que on est sociologue de mère en fille?
Alors, qu'est-ce qu'il y a de sociologue? J'ai déjà une particularité, c'est que je suis sociologue, mais en faculté des sciences du sport. Donc, je m'intéresse à toutes les questions des loisirs. Et être sociologue, finalement, c'est s'intéresser aux questions de société et à la façon dont les hommes vivent ensemble. Est-ce qu'on est sociologue de mère en fille? Non, pas du tout. Mes parents sont ouvriers. Je suis d'origine de ce qu'on appelle en sociologie des classes populaires. Et pour autant, par les études, on peut devenir sociologue.
Et maintenant, nous allons lancer une phase d'un micro-trottoir. À quoi servent les loisirs?
Ou à quoi ça sert les loisirs?
Ça dépend pour certaines personnes. Moi, surtout pour me décontracter et enfin, me garder en forme.
À me détendre, à me déconnecter.
Bah, c'est une passion, enfin, un passe-temps.
Je sais pas, changer les idées.
Les loisirs sont un moyen de s'épanouir personnellement, de prendre du temps pour soi, de s'évader, de profiter des instants, mis à part le travail. Et je pense que c'est important de s'y consacrer, en tout cas.
Se détendre. Et puis à changer d'univers.
Déjà, c'est bon de faire du sport. Hein. Théoriquement, ça garde en bonne forme.
À s'évader, on va dire, et à se distraire, voilà.
Madame la sociologue, qu'est-ce qu'un loisir? Est-ce physique, culturel?
Alors, par rapport à tout ce qui a été dit dans le micro-trottoir, effectivement, les loisirs ont plusieurs fonctions. Ils ont d'abord une fonction de repos, donc c'est la première origine des loisirs, mettre au repos un corps qui était à l'origine plutôt un corps fatigué. Autre fonction du loisir, c'est aussi effectivement, ça a été dit plusieurs fois dans le micro-trottoir, une fonction de délassement, de relaxation, et puis une fonction peut-être un peu plus contemporaine, qui est aussi une fonction de recréation de soi, où par le loisir, en fait, on construit son identité. C'est un temps qui est choisi, contrairement au temps de travail. Et par ce loisir, ça permet de s'épanouir et de se reconstruire.
Les loisirs est-il forcément associé à la notion de plaisir?
Le loisir est majoritairement associé à la notion de plaisir, puisque c'est une activité que l'on choisit soi-même en fonction de ses goûts et qui n'est absolument pas contraint par l'ensemble des fonctions habituellement qui composent habituellement le temps de l'individu. Et donc, pour répondre à la question tout à l'heure, le loisir n'est pas forcément un loisir sportif ou culturel. On a aussi des loisirs qui sont plus passifs, mais qui sont pour autant des loisirs.
Donner du temps pour vous en étant, par exemple, bénévole, peut-on considérer cela comme un loisir?
Le bénévolat est un loisir, oui. Alors certes, ça impose des contraintes, mais de la même façon que quand on s'entraîne en club, par exemple, ça impose des contraintes. Quand on fait du théâtre ou de la radio, ça impose aussi des contraintes. Et c'est pas parce qu'il y a contraintes que ce n'est pas un loisir.
Et y a-t-il une différence entre loisir et activité?
L'activité est une dimension du loisir, mais ce n'est pas la seule. On peut aussi avoir un loisir en écoutant de la musique allongée sur son canapé. Ça n'implique pas nécessairement une mise en activité de soi ou du corps. Et d'ailleurs, on revient aussi sur cette hyperactivité permanente dans les sociétés. Et dans les loisirs, il y a aussi parfois aujourd'hui une recherche de la lenteur et de la rupture du rythme avec le temps quotidien.
Et concrètement, la différence tient en quoi ?
La différence, c'est que dans nos sociétés, on est en hyperactivité permanente, comme si le faire était l'obligation du temps moderne. Et dans le loisir, on va aussi parfois chercher, au contraire, à rompre avec cette activité à tout prix et passer des fois du temps à ne rien faire.
La télé, pour vous, est-ce un loisir?
Oui, la télé est un loisir. C'est un loisir que l'on attribue habituellement aux classes populaires, mais pas uniquement. Toutes les classes ont du loisir devant la télévision.
Mais n'y a-t-il pas, par exemple, possibilité de dévier et d'être trop axé sur la télévision? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne vient pas esclave et est-ce que c'est quand même un loisir ou est-ce qu'on subit?
On ne sort plus de la télévision, ça devient une déviance. Donc effectivement, ça peut ne plus être considéré comme un loisir. Mais à partir du moment où on choisit de regarder la télévision pour se distraire, que l'on ne le vit pas comme une obligation, ça reste un loisir.
Merci. Depuis quand parle-t-on du concept de loisir? Quelle est l'évolution de ces concepts?
Alors, l'évolution du loisir tel qu'on l'entend aujourd'hui, comme une activité de distraction, il apparaît dès le début du XXe siècle, notamment avec les élites qui se déplacent des grandes villes pour aller dans des zones plus rurales ou plus récréatives, comme la montagne ou les littoraux, pour se ressourcer.
Mais lorsque vous parlez d'élite, quelle différence entre les enfants et les adultes pour le loisir ?
Alors la différence, c'est que le loisir des enfants, il est souvent choisi par les parents. Il est souvent imposé par les parents dans une perspective d'éducation. Alors que les adultes choisissent et ont la possibilité matérielle, donc la possibilité de se déplacer seul par exemple, que n'ont pas les enfants.
Pourquoi étudier les loisirs et quels enjeux, notamment financiers, sont dans ces études ?
Alors, pourquoi étudier les loisirs ? Parce que c'est une composante incontournable aujourd'hui des sociétés modernes. On est sur une société où le temps de travail a été réduit de moitié depuis le début du XXe siècle. C'est une partie très importante de la vie des individus, notamment dans le temps quotidien, mais pas seulement. En l'espace de moins d'un siècle, le temps de travail a été réduit de moitié sur une vie. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de la vie qui échappe aux études si on ne s'intéresse qu'au travail. Et donc c'est aussi comprendre ce que font les gens du temps qui est libéré du temps de travail. Et c'est là aujourd'hui, notamment dans le temps du loisir, que se construisent majoritairement les identités. Alors quels enjeux pour l'étude des loisirs ? Bien sûr, il y a des enjeux économiques pour les industries, puisque c'est un marché, le loisir aujourd'hui, aussi bien pour l'économie touristique, mais aussi pour l'économie culturelle ou l'économie sportive. Pas seulement, c'est aussi s'intéresser aux inégalités dans l'accès au loisir, puisque tous n'ont pas accès au même loisir.
Bien. Maintenant, nous allons écouter la suite du micro-trottoir avec la question « Tout le monde a-t-il accès au loisir ?» Pensez-vous que tout le monde a accès au loisir et pour quelles raisons ?
Non, tout le monde n'a pas accès au loisir. Les raisons sociales, tout simplement. Manque de travail, essentiellement social. Les loisirs, ça coûte cher. Pas d'argent, pas de loisirs.
Tout le monde peut y avoir accès, mais il faut que la personne le veuille, quoi. Voilà. Parce qu'on peut bien se distraire sans besoin de dépenser des sous, hein.
Oui.
Juste en se promenant ou en s'occupant autrement. Hein.
Il y en a qui n'ont peut-être pas les moyens, et puis d'autres qui préfèrent autre chose, sans doute.
Tout le monde... Après, c'est possible, s'il n'y a pas de barrière financière, je pense que... Sur Évreux, c'est possible, il y a pas mal d'équipements et de possibilités. Après, il peut peut-être manquer la motivation ou le fait de ne pas être bien informé.
Oui, non, je pense que le loisir est accessible à tous, mais je pense que peu de gens s'y intéressent, enfin de moins en moins, parce qu'il y aurait peut-être pas assez de publicité ou pas assez d'accès pour les jeunes ou des choses comme ça.
Moi, je pense que tout le monde peut avoir accès aux loisirs. Non, parce qu'il y a des loisirs qui coûtent cher. Comme le ski, c'est un peu cher quand même. Mais bon, c'est un problème de moyens.
Ouais.
Un problème de moyens. Si on n'a pas d'argent, c'est comme pour faire les courses.
Ah non, ça je pense pas, non. Ça c'est sûr que non. C'est pour les questions de moyens. Je sais pas, moi je vois ma femme qui travaille en ZEP par exemple, elle me parle de tous ces enfants qui partent pas en vacances, mais qui sont contents de revenir à l'école parce qu'ils sont merdes pendant les vacances, qu'ils n'ont rien à faire. Donc. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est ceux qui pensent qu'on est tous égaux au niveau des loisirs, je pense qu'ils ont un voile devant les yeux, mais bon après.
Oui, je pense que tout le monde peut y accéder, oui.
Et vous pensez pas qu'il y a
pour certaines distances qui coûtent cher dans certains sports et tout, mais je crois qu'il y a des aides pour ça.
Non, pas forcément, à cause du temps et de l'argent aussi. On n'a pas forcément tous les moyens et pas forcément tous le temps avec les cours, le travail.
Comment réagissez-vous, Madame Barbara Evra, à ce que vous venez d'entendre ?
Alors, la dernière phrase a été particulièrement intéressante, notamment parce que la jeune fille a soulevé le problème du temps. Alors, effectivement, avoir des loisirs, ça nécessite du temps. Et quand on est actif, avec des enfants, on n'a pas toujours ce temps. Autre exemple, quand on est au chômage, il y a une espèce d'idée reçue dans la société qui voudrait que, puisqu'on n'a pas de travail, on n'a pas de loisirs. Et ça, c'est une idée reçue qui est fausse. C'est pas parce qu'on est au chômage qu'on n'a pas le droit à autant de loisirs. Autre élément de réponse, est-ce que tout le monde a accès aux loisirs ? Alors, il y a eu des réponses assez contradictoires, parce que je pense qu'on n'a pas tous la même définition du loisir. Et il y a aussi l'idée que tous les loisirs ne se valent pas. Alors effectivement, tout le monde a accès au loisir, puisque le loisir, ça peut aller de la randonnée à la lecture, à la télévision. Simplement, tous n'ont pas accès aux loisirs les plus valorisés socialement et les plus coûteux économiquement. Quand j'entendais parler du ski, effectivement, c'est un loisir qui est extrêmement valorisé. Pendant la période hivernale, on a des spots publicitaires qui valorisent les vacances à la montagne. Et effectivement, ce n'est pas accessible à tous économiquement. Mais ce sont, tout le monde a des loisirs. La seule chose, c'est qu'on n'a pas tous accès aux mêmes loisirs. Et notamment, les plus fragiles socialement n'ont pas accès aux loisirs qui sont les plus valorisés dans la société.
Qui profite des loisirs? Quelles catégories socio-professionnelles ou, si vous pouvez donner les chiffres? Et quelle différence des loisirs peut-on observer en fonction des catégories socio-professionnelles?
Alors, donner des chiffres sur l'accès aux loisirs, c'est extrêmement compliqué. On a la dernière grande étude qui a été faite sur les loisirs dit par exemple que 60% des Français partent en vacances. Mais ça, c'est des temps de loisirs assez exceptionnels. Dans les loisirs quotidiens, quasiment tous les Français ont accès à des loisirs. Pour ce qui concerne, alors à qui ça profite? Là encore, c'est une question assez difficile puisque tout dépend des loisirs dont on parle. Si on parle par exemple du golf, effectivement, tout le monde n'a pas accès à ce loisir. C'est réservé plutôt aux classes supérieures, culturellement et économiquement. Si on parle de la randonnée, toutes les classes sociales ont accès à la randonnée. Aller au cinéma, aujourd'hui, c'est accessible pratiquement à tous, mais ni dans les mêmes conditions, ni dans les mêmes proportions.
Le tennis, c'est pour les riches, mais est-ce un a priori et quel loisir pour les pauvres?
Alors le tennis, c'est pour les riches, oui, c'est un a priori social, puisqu'on constate qu'il y a des différences en fonction de l'implantation des structures. Par exemple, les clubs de centre-ville rassemblent plutôt des catégories sociales supérieures, donc les professions de cadre supérieur, de chef d'entreprise. Par contre, les clubs de tennis dans les espaces ruraux attirent toutes les classes sociales, y compris des classes populaires. Quelle différence il y a entre les loisirs des pauvres et les loisirs des riches? Il y a une double discrimination dans les loisirs. Il y a une discrimination qui est économique. Faire du golf, le parcours coûte cher, le matériel coûte cher. Mais il y a aussi une discrimination culturelle. Il y a des loisirs qui font appel à des référents culturels, à des techniques particulières, et qui sont plus facilement apprivoisés par les classes supérieures. La différence entre les loisirs des classes supérieures et les loisirs des classes populaires, c'est surtout lié au temps que nécessite la pratique. Plus l'investissement temps est exigeant, plus on va avoir tendance à retrouver des classes supérieures. C'est lié aussi à la technicité du matériel utilisé. Le théâtre, les sports mécaniques par exemple, sont plutôt des loisirs qui s'attachent aux classes sociales supérieures. Mais la musique est un loisir partagé par toutes les classes. Simplement, on ne partage pas les mêmes musiques, par exemple.
Pourquoi peut-on constater des variations des prix entre les villes ou entre les quartiers?
Au niveau des loisirs?
Oui.
Les variations de prix sont liées à soit à la différence d'aide de la part de la puissance publique. Mmh. On a des collectivités qui vont accompagner plus ou moins le développement des loisirs, qui vont favoriser plus ou moins certaines classes sociales plutôt que d'autres. Et c'est lié aussi au capitalisme, qui est que plus la demande est forte, plus le prix va baisser, et moins la demande est forte, et plus l'accès à l'activité va coûter cher.
Comment démocratiser les loisirs? Et y a-t-il ou y aura-t-il un futur plus profitable aux riches qui auront plus de temps, ou aux pauvres qui en ont de moins en moins peut-être?
Alors, comment favoriser le développement des loisirs? C'est quelque chose qui a déjà été amorcé en France de la part de la puissance publique, notamment avec les différentes lois successives sur la réduction du temps de travail, mais aussi avec la mise en place, par exemple pour le sport, de tickets sport, de coupons sport, pour faciliter le paiement des licences. Il y a des théâtres, par exemple, qui font des prix spéciaux pour les jeunes, pour les personnes sans emploi, pour les seniors. Donc il y a déjà des politiques qui favorisent l'accès aux loisirs. Est-ce que le rapport au temps de travail va impacter de manière négative les classes populaires? Je n'en ai pas l'impression, dans la mesure où aujourd'hui, on est sur une base de 35 à 39 heures en fonction des statuts des uns et des autres. Le temps de travail légal est de 35 heures. Il y a parfois des gens qui ont des semaines de 39 heures, mais avec des jours de récupération. Et donc, c'est plutôt favorable à l'augmentation des loisirs dans les classes populaires. Maintenant, la question qui se pose, c'est véritablement l'accompagnement économique de ce temps de travail et aussi une éducation à l'utilisation de ces loisirs.
Quels loisirs pour les futurs ou dans l'avenir ? Y aura-t-il un loisir idéal ?
Le loisir idéal, il n'y en a pas, il y en a un par individu finalement, puisque ça dépend de ce qu'on cherche, de ce dont on a besoin, et en plus ça évolue tout au long de la vie. Donc il n'y a pas un loisir idéal, il y a une multitude de loisirs qui correspondent à nos besoins et à nos envies en fonction de nos âges, de nos projets de vie. Donc il n'y a pas un loisir idéal. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il y a une évolution très forte aujourd'hui sur les loisirs avec l'apparition des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, qui modifient à la fois nos accès aux espaces de pratique. Il est plus facile par exemple aujourd'hui d'accéder à des sites de randonnée parce qu'on est mieux informé, parce qu'on peut les utiliser, accéder aux itinéraires via les smartphones, par exemple. Donc il y a une plus grande accessibilité aujourd'hui via ces médias. Et les loisirs de demain, c'est compliqué de les anticiper puisqu'ils sont multiples. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des incontournables, hein, les activités physiques, les activités culturelles, la télévision font partie de nos quotidiens aujourd'hui.
Puisque vous êtes sociologue, la sociologie, est-ce un loisir ? Et en tant que sport de combat ?
Alors la sociologie est son loisir, pas toujours. C'est, en tout cas, tout dépend de la façon dont on le prend. Quand on lit un ouvrage sociologique, ça peut être un loisir. Moi, c'est un métier, mais au-delà du métier, c'est aussi, quand on fait des enquêtes de terrain, ça peut aussi parfois être du loisir. Quand j'accompagne des randonnées, c'est un mélange de travail et de loisir. Ça se superpose et ça se chevauche. La frontière aussi aujourd'hui entre temps de travail et temps de loisir, elle est plus poreuse. Donc ça, c'est un élément aussi qui caractérise les loisirs aujourd'hui. C'est une activité de combat parfois, puisque quand on est sociologue, on est aussi là pour briser parfois des idées reçues, et notamment chez nos élus, chez les politiques, mais pas seulement, aussi dans l'ensemble de la société. Donc ça peut aussi parfois s'apparenter à un combat, mais pas toujours, heureusement.
Merci Barbara. Je rappelle que vous êtes sociologue et maître de conférences à l'Université de Rouen. D'avoir répondu à nos questions et on repart en musique.
Merci à vous. Merci.
Escancarado no jornal. Sua mãe lhe deu um beijo, ele partiu. Sem camisa ele se foi, cheirando a sal. Atirou a queima-roupa e depois riu. Viu seu CPF escancarado no jornal. Sua mãe lhe deu um beijo, ele partiu. Sem camisa ele se foi, cheirando a sal. Salvador do mundo, desejo profundo, lindo vagabundo. Esse mundo imundo, seu olhar profundo.
Para que ela nem para que balita que ele me abala. Nessa nele vê a manibela. Alô, mãe, que ele me abala.
Atirou a queima-roupa e depois riu.
Sorou.
Viu
seu CPF escancarado no jornal. Sua mãe lhe deu um beijo, ele partiu. Sem camisa ele se foi, cheirando a sal. Salvador do mundo, desejo profundo, lindo vagabundo. Esse mundo imundo, seu olhar profundo. O mundo não merece não.
C'était Rivière Noire, Vélo Vagabundo. Et nous écoutons maintenant la suite et la fin du micro-trottoir sur le thème des loisirs.
Quels sont vos loisirs ?
Les voyages.
Je suis jeune sapeur-pompier. Pas spécialement, mis à part la musique chez moi.
Enfin... J'en ai pas. Non, c'est par flemme. Et non, mais si vous appelez loisir, lire, sortir, aller marcher un peu, c'est pas des loisirs pour moi, c'est... Enfin bon.
La lecture et les mots fléchés.
Ah. J'ai des problèmes de santé, donc c'est plutôt amoindri. Donc c'est peut-être pas à moi qu'il faut poser la question, parce que sinon je ferais plein de choses. Mais non, comme j'ai...
Qu'est-ce que vous aimeriez faire, par exemple ?
Je faisais de la peinture et de l'aquarelle. J'allais à la Maison des Arts.
D'accord.
À Évreux, en face de la mairie.
Ouais.
Donc là, j'ai dû arrêter. Sinon, je participais à une chorale le lundi soir. Je faisais de la randonnée pédestre aussi.
Alors, mes loisirs sont un peu la peinture, le dessin, la lecture et les jeux vidéo aussi.
Mon loisir, enfin, mes loisirs, bon, c'est plus la randonnée et puis le ski aussi, quand je peux y aller.
La lecture, le cinéma, la marche, si vous voulez.
Ouais.
Voilà.
Oui, c'est tout. Moi, je fais beaucoup de rugby.
Avez-vous des choses que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas, et pourquoi, comme loisir ?
Non, pas spécialement. Non.
Vous faites tout ce qui vous plaît, quoi.
Oui.
J'ai la chance d'avoir un salaire qui me permet de faire à peu près ce que j'ai envie. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais j'ai pas à me plaindre. Je suis avec ce que j'ai.
Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Un manque de moyens. Ouais, peut-être partir plus en voyage, ouais, avec la famille.
Il y a des loisirs que j'aimerais faire, oui, mais par exemple, comme m'inscrire à la Maison des Arts, mais je ne peux pas. Ce n'est pas une question de manque d'argent, puisque la Maison des Arts est assez accessible. C'est un manque de temps, tout simplement, dû au travail.
Des choses que j'aimerais bien faire, c'est pas travailler. Me promener.
Vous promener, ouais.
Donc, comme je vous dis, voyager, on ne peut pas travailler et voyager.
Oui, à cause de mes problèmes de santé.
Moi, je fais du sport aussi, alors tennis et gymnastique.
Ah, il y a tellement de choses qu'on aimerait faire et qu'on n'y arrive pas, déjà par manque de temps et par manque de moyens. Par exemple, de l'aquagym, c'est pas donné à tout le monde.
Ouais.
Tout le monde peut nager, bien sûr, mais et encore, c'est pas sûr. Il faut les moyens, quoi.
Et quel loisir peut-on imaginer dans le futur ?
Je pense qu'on cherche trop loin. Hein. On a qu'à déjà s'occuper de tout ce qu'on a près de soi. Et après, on verra dans le lointain. Ouais.
Moi, je verrais plus personnellement des loisirs sur l'environnement, le respect de la nature, les promenades en pleine nature. Enfin, tout ce qui est pour le respect, la découverte de la nature, tout simplement. Parce que c'est des valeurs qui me sont chères. Donc, je pense que ça serait intéressant de s'y plonger dedans, enfin voilà. Beaucoup non, mais ça commence à se faire petit à petit. Je pense que les gens commence à prendre conscience des choses et que c'est une bonne chose justement et qu'il faut aller dans ce sens-là.
Je peux aller voir un voyage dans l'espace.
Toutes les techniques nouvelles, moi, ne m'intéressent pas beaucoup. Hein. Tout ce qui est Instagram, Google et compagnie, ça me dépasse fortement. Donc c'est pas à moi qu'il faut poser la question, je pense. Moi, je suis dépassée.
Je sais pas. Alors, non, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée.
Je n'ose même pas imaginer. Je laisse les jeunes choisir.
Aucun, franchement, j'en ai pas en vue.
Ça, c'est une bonne question. Déjà partir en vacances pour beaucoup, c'est peut-être terre à terre, mais c'est déjà bien loin pour beaucoup de monde. Comme loisir, peut-être plus travailler, ce serait peut-être un loisir sympa.
Et maintenant, nous allons retrouver donc la petite cuisine d'Ozone. Aujourd'hui, la recette, les madeleines.
Bienvenue dans notre émission mensuelle Rencontre autour de la cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette de madeleine. Que nous faut-il donc pour préparer ces madeleines ?
Donc, il faut 3 œufs, 150 g de sucre, 200 g de farine, 8 g de levure, 100 g de beurre fondu, 50 centilitres de lait.
Oui, et donc comment allons-nous procéder pour préparer les madeleines, la pâte les madeleines, oui.
Donc il faut faire fondre le beurre, les 8 grammes de beurre, les 100 grammes de beurre, mélanger les œufs et le sucre.
Donc nous allons commencer la recette.
Rémi, vous voulez casser les œufs ?
Oui, je veux bien. Je vais les casser, oui. Bon, alors... Donc, il nous faut, donc, première étape, il faut mettre les blancs et les jaunes.
Oui.
Donc, les blancs et les jaunes. Combien faut-il d'œufs, au fait ? Trois œufs, vous m'avez
dit. Trois œufs.
Trois œufs. Bien. Le second est toujours là, suisse et fidèle à la cuisine. Et maintenant, notre troisième œuf. Je le casse en faisant bien attention de ne pas mélanger, d'incorporer, de mettre les jaunes et les blancs. Bien. Bon, quelle est l'étape suivante maintenant ?
Donc, mettre le beurre, mélanger les œufs et le sucre en fait.
Mélanger les œufs et le sucre. Nous faisons le mélange, nous incorporons pour mélanger les œufs et le sucre. Voilà, nous arrivons presque à la fin.
Alors, on pourrait même se permettre une petite fantaisie, si vous le
permettez, oui.
Avec du sucre vanillé.
Ah, parce eh bien, que... je n'y avais pas pensé, mais je pense que c'est un ingrédient qui rajoutera au palais, au goût du palais, aux madeleines, que nous dégusterons ensemble. Il nous faudra ensuite, naturellement, mélanger...
Jusqu'à ce que ça blanchisse un peu.
Bon, je malaxe, j'incorporais le sucre avec les œufs.
Parce que je crois qu'il faut que ça devienne un petit peu blanc.
Oui, c'est ça.
Donc la préparation se fait. Ah, ça prend forme. Enfin, forme, c'est liquide, quoi. Ça commence à blanchir légèrement. Donc les œufs ont été mélangés avec.
Après, donc, il faut 40 centilitres de lait ou c'est après ?
Oui, c'est
après. 40 centilitres de lait.
Donc, comme l'a dit notre chef experte Isabelle, nous rajoutons 40 centilitres de lait, mesuré dans un verre doseur, naturellement. Puis, nous avons toujours notre...
Battre un petit peu. Et la levure.
Notre preneur de son en est tout ébahi. Je le vois sourire en coin, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous mélangeons la farine avec les œufs qui ont été montés en blanc, avec le sucre. La pâte est quasiment finie. Il ne nous restera plus qu'à incorporer le beurre. Fondu naturellement. Vous pouvez éventuellement le passer au micro-ondes si vous voulez que ce soit plus rapide. ou alors dans une casserole à feu doux, en faisant attention qu'il n'attache pas au fond. La pâte l'emportera-t-elle sur notre fine cuisinière? Nous le saurons.
C'est mieux, mais...
Donc, que devons-nous faire maintenant, une fois que les ingrédients ont été mélangés?
Mettre la pâte dans les... beurrer les moules qui ne sont pas anti-adhésifs.
Oui. Et donc, c'est un moule à madeleine spécial ou...
Oui, qui ont la forme de madeleine.
Donc, en fait, un moule à madeleine, quoi.
Voilà.
D'accord. Pour nous préparer et bien mettre dans le moule la pâte. C'était une recette pour combien de madeleines? Pour 32 madeleines. Donc, le moule est quasiment rempli pour pouvoir faire monter dans le four. Préchauffer le four à 200 degrés et surveiller que ça monte bien, que ça prenne bien durant 10 minutes environ. Et maintenant, un texte de Jean que nous saluons ici au passage, aujourd'hui absent, et que nous espérons revoir le plus rapidement possible. J'étais seul, l'autre. C'est à ce moment que tu m'as pas vu. Je marchais par une nuit sans fin. Bon Dieu, je n'y arrive plus à me lever. Plus de 40 ans ont passé. Joachim est sans doute au fond du jardin. C'est à ce moment que tu m'as pas vu, courant sur les sentiers ensoleillés, parfumé des fragrances estivales, bien qu'ébahi par les fleurs champêtres, coquelicots, bleuets, marguerites, digitales, je t'ai interpellé avec les chants des cigales, au son des cymbales, mouvante pour te dire que le temps de la liberté était arrivé, apportant avec lui les espérances des lendemains sans fin, des rêves oniriques, des lectures nocturnes à la lueur des clairières, regorgeant de buissons ardent, abritant une flore et une faune multicolores, habillés de la palette aquarellée des ocres jaunes, pourpres, carmines, rouges, vermillons, agrémentés des pierres précieuses, émeraudes, rubis, saphirs, améthystes, parant ces silhouettes filiformes, évanescentes.
Il a neigé Tobèque. double pic, c'est ça net, bon bagay à on die. C'est ça, avec tout bas double pic, m'a marché. Pas qu'un danger, vous pic, bon bagay à on die. Allô, maestro douce.
C'était Bullpick, je reviens chez nous.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois plus en Ozonie, plus au nous évreux, dans un avenir pas assez lointain. Le Narvalo, nouveau dictateur du monde. Du nouveau monde libre, décide de partir via Michelin pour Walnut Grove, dans le Minnesota. Pourquoi ? Pour aider Luke Lovecraft à retrouver sa mère, la belle mais réelle Laura Ingalls. Pour mener l'enquête, ce grand dictateur a pu déterrer, reconstituer, recoiffer et réaliser un nouvel inspecteur, Lafouine, avec sa fine équipe, bien sûr, Marilyn, Bébert, Top Futé, Love Crash et Youquet.
Youquet, téléporte notre excellence et ses suivants dans le Minnesota. Et que ça saute, vilaine.
Oh, bah, comment tu me parles, toi? Ça fait 10 minutes que t'es dictateur et tu parles déjà comme Alain Delon.
Chouette, des vacances. Qui me porte mes 25 balles?
Tu n'as pas besoin de tout ça, mais juste des Chanel numéro 5.
Bah, attachez vos ceintures, décollage immédiat pour le Minnesota.
Aussitôt dit, à peine arrivé aux nus États des Unis, le Narvalo décide de planter un drapeau et déclare le Minnesota premier État considéré confédéré de Mégalo-Narvalie.
Maintenant que j'ai civilisé ce pays, la fouine, je vous fais l'honneur de vous mandater inspecteur trivisionnaire de la brigade de recherche de Laura Ingalls. Elle doit être ramenée morte ou vive.
Je n'ai qu'un œil pour entendre et un nez pour voir, mais je suis opéra optionnel. Je vous promets de retrouver Laura morte ou décédée. Les morts, ça me connaît.
Dans l'état où vous êtes, pas sûr que vous retrouverez grand-chose.
On a vu des footballeurs gagner une Coupe du Monde avec moins de capacité.
Vous pouvez compter sur moi, je serai vous y.
Et moi, je suis le cerveau de l'équipe.
Vivement qu'on la retrouve, qu'on puisse aller faire la lèche shopping ensemble.
Je la sens pas, cette inquiète. Pas prêt, t'es réfoire, maman.
Soyez pas défaitiste, j'ai mis la meilleure équipe sur l'enfer.
Ayant mis sa meilleure équipe sur l'envers, le Narvalo retourne en Ozonie pour asseoir sa navalesque autorité. Tout comme la fouine, le docteur Lambert est ramené d'entre les morts.
Cher Lambert, je t'ai ressuscité pour que tu m'aides sur un point com en tant que docteur. Tu dois agir pour stopper la propagation de l'épidémie de mutanisme précoce qui touche la population du Nouveau Monde libre.
Écoute, j'étais absent un certain temps. Je pose pas plus de questions, mais j'en pense pas moins. Deux questions tout de même. Premièrement, c'est quoi le mutanisme précoce? Et deuxièmement, pourquoi j'ai un bras plus long que l'autre et une main de femme?
Pourquoi tout le monde m'embête avec des détails? Si tu mets donc tes manches comme ça, là, et une paire de moufles, personne ne verra la différence. Revenons donc à nos mutins. Le mutanisme précoce se caractérise par une forte empathie à mon égard, la
la tendance à participer à des réunions secrètes et à suivre des enseignements d'un certain Xénophon, Nuts dit la noisette.
Ah bon ? Les Nuts, ça s'appelle des noisettes alors ? Et comment ça soigne le mutanisme précoce ?
C'est simple, selon le DSM-97, il suffit de couper la tête aux infectés, de brûler cette tête et de plonger les cendres au cœur d'un volcan en nuit de pleine lune à 3h63 et 2 secondes. Pendant ce temps, le grand Mamamouchi, c'est-à-dire moi, exécute une danse vaudou sur un air latino.
Sur un air latino.
Autrement dit, c'est encore moi qui fais tout le boulot.
Mais ils risquent pas de mourir si je leur coupe la tête. Et qu'est-ce que je gagne, moi, en échange ?
En effet, qu'est-ce que le docteur Lambert a à gagner en exécutant cette sale besogne ? La fouine ne risque-t-il pas de succomber au charme agricole de Laura Ingalls ? Faut-il légaliser le riz ? La téléportation, est-ce un loisir à la portée de tous ? Pour le savoir, rendez-vous avec vos proches le mois prochain pour un prochain épisode très prochainement à suivre.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il existe... Une lune au... Il existe une heure au déclin du jour où le ciel s'embrase. On le mérait ainsi pour toujours. Teinte rose, arrangée, jaune inonde le pourtour du soleil déclinant et c'est la fin du jour. Parfois, par un cliché, on arrive à saisir ces tableaux colorés aux yeux qui est du plaisir. Mais la photo trahit un peu. La magie du moment, difficile aussi, par la peinture de reproduire l'instant. Prend-on toujours le temps d'observer cette étoile, offerte par la nature, plus belle qu'une toile. Même le soleil caché, le ciel est resté chatoyant. Là, plusieurs photos sont à prendre. C'est le moment. Quelques minutes d'inattention, l'aquarelle céleste a changé de tout. Quelles incantations faire au soleil ? Pour que chaque soir, il nous émerveille. Quel serment faire aux nuages pour les obliger à partir ? Tourner la page ? Mais si chaque soir, ces spectacles étaient présents, saurait-on apprécier ? Car la beauté, n'est-ce pas la rareté ?
On va passer à la minute du pôle. On va tenter un truc ce mois-ci. Accrochez-vous. Ça s'appelle « Marie-Claude n'a pas tiré l'épine ». Tu vois le décapadio franc et moté ?
Un qui a préjoué à la machine à sous ?
Oui, il te regarde.
Je n'en retourne pas mon pied sans devant derrière.
J'y trouve Vigous.
Arrête de me scier les côtes.
Ah, tu penses toujours à ton niolu ?
Rave.
Rien qu'en y voyant, j'y vois. On peut passer à la traduction, c'est du savoyard en fait. Tu vois le grand type complètement chauve ?
Celui qui est en train de jouer à la machine à sous ?
Oui, il te regarde.
Ça m'est égal.
Je le trouve vigoureux.
Arrête d'insister lourdement.
Ah, tu penses toujours à ton rêveur ?
Lâche-moi.
C'est évident.
Pour conclure, nous espérons vous avoir suffisamment diverti. Encore merci à Madame Barbara Evrard d'avoir bien voulu répondre à nos questions pendant l'interview. Il est l'heure de nous quitter et d'aller nous sustenter. Nos prochaines aventures auront lieu le jeudi 30 avril avec des interviews réalisées au CH du Rouvray sur la journée « Comment soigner en santé mentale ». Vous pouvez retrouver nos podcasts sur le site principeactif.net. D'ici là, amusez-vous bien.
Écoutez bien. Ozone, O3, gaz, 3 mm d'épaisseur, environ 300 d'opsons.
Ozone libre.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
Thank you.